Frères et sœurs bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. C'est par ces ultimes paroles que l'archange Gabriel tire sa révérence, laissant la bienheureuse Vierge Marie à l'ombre du Puissant. Il entend ces quelques paroles qu'elle lui adresse. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. En reprenant aujourd'hui notre méditation estivale sur l'Ave Maria, nous passons de la salutation de l'archange Gabriel à celle de Sainte Élisabeth. Lorsque l'ange conclut que rien n'est impossible à Dieu, il fait référence, certes, au mystère de celle qui demeure vierge, tout en devenant mère et mère de Dieu. Cependant, il vient également de lui annoncer une autre naissance impossible. Voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils, alors qu'on l'appelait la femme stérile. C'est alors qu'en grande hâte, la Sainte Vierge, à l'ombre du Très-Haut, quitte la hauteur angélique pour celle de cette région montagneuse où résident Zacharie et Élisabeth. De sa cousine, elle entend cette double bénédiction qu'à notre tour nous lui adressons dans cette prière. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Demandons-lui ses lumières pour approfondir de ses bénédictions les grands mystères. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pour approfondir ces paroles, mettons-nous à l'école de Saint-Luc qui nous les rapporte dans son évangile. Lorsque la Sainte Vierge entre dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth. Cette salutation, nous dit-il, résonne au plus profond d'Élisabeth. Ainsi lui confie-t-elle, « Lorsque vos paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. » Et Saint Luc, de préciser la conséquence de cette salutation de la Vierge, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Quelles sont donc les paroles que lui a adressées la Sainte Vierge pour qu'aussitôt le Saint-Esprit lui soit donné et en plénitude? Mais si ces paroles ne nous sont pas rapportées, c'est parce que ce n'est pas tant ce qu'elle a dit qui compte que comment elle a salué Élisabeth. La réponse tient en celle que l'archange adresse à Marie face à son incompréhension devant l'incarnation du Fils de Dieu. « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? Je ne connais pas d'homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te prendra sous son ombre. » Ainsi, lorsque Marie salue Élisabeth, elle se tient à l'ombre du Saint-Esprit, qui alors fond sur sa parente, atteignant le profond de ses entrailles, dans lesquelles d'allégresse son enfant tressaille. D'un ventre à l'autre, Jean-Baptiste reçoit la visite du Seigneur Jésus, Élisabeth, celle de la mère du Seigneur. Mais ces deux visitations ne sont rendues possibles que par celles du Saint-Esprit qui les suscite et les anime. D'ailleurs, Saint Paul nous précise dans ses enseignements que personne ne peut reconnaître que Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint. C'est cette profession de foi qui met en mouvement Saint Jean-Baptiste dès le ventre de sa mère. Lui que l'on nommera alors le précurseur reconnaît déjà celui dont il doit préparer les chemins. Élisabeth, quant à elle, ne reconnaît pas seulement en Marie sa cousine, elle confesse dans la foi, « Comment ai-je ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?» L'action du Saint-Esprit est également identifiable à cette joie dont saint Paul nous dit qu'elle en est le fruit. Elle embrase Élisabeth jusqu'à l'enfant qu'elle porte, alors que Marie se met à exulter en Dieu dont elle chante les merveilles, entonnant alors son Magnificat. C'est donc, remplie de l'Esprit-Saint et avec une voix forte, précise saint Luc, qu'Élisabeth répond à la salutation de la Mère du Seigneur, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. » Cette double bénédiction n'est donc pas étrangère au Saint-Esprit, ayant pour mission de nous conduire vers la vérité tout entière. Lorsque le bienheureux pape Pie IX proclame le dogme de la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, il commente la salutation singulière et inouïe jusque-là de l'archange Gabriel. S'il la nomme pleine de grâce, c'est parce que l'ange vénère celle qui est le siège de toutes les grâces divines, de telle sorte, précise le pape, qu'elle n'avait jamais été soumise à la malédiction. Au contraire, poursuit-il, elle avait partagé avec son fils la perpétuelle bénédiction qu'elle avait mérité d'entendre de la bouche d'Élisabeth, inspirée de l'Esprit-Saint, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » Élisabeth bénit la mère et bénit son enfant. Elle bénit la femme et elle bénit l'homme. Elle bénit la nouvelle Ève et bénit le nouvel Adam. Car quelle est donc cette malédiction à laquelle échappe cette mère, bénie entre toutes les femmes? Quelle est donc cette malédiction qui n'atteint pas le fruit de ses entrailles, qui l'en protège? Si ce n'est cette punition divine, atteignant la descendance d'Ève, conséquence du péché des origines. Placée sous l'autorité du Saint-Esprit, la double bénédiction d'Élisabeth nous renvoie donc au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme, il les créa. Il les plaça dans les limites d'un jardin, leur donna une loi, symbolisée par l'arbre de vie et cet autre arbre, que l'on nommera par la suite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si la loi divine leur interdit de toucher aux fruits de ces arbres, Dieu ne place pas au centre du jardin la tentation. Quel serait donc ce Dieu qui aurait plaisir à inciter l'homme à faire le mal? Non, la loi placée au centre du jardin, la loi bien visible par la hauteur de ces arbres, est là pour rappeler à Adam et Ève, qu'ils ne sont ni les maîtres de la vie qu'ils reçoivent de Dieu, ni les maîtres absolus de la création. Si Dieu leur accorde la dignité de participer à son gouvernement divin, en leur confiant le gouvernement du monde, il demeure leur Seigneur. Au commencement, Adam, qui est placé à la tête du genre humain, et Ève, qu'il nommera la mère des vivants, connaissent intimement Dieu. Celui-ci descend dans le jardin et se promène familièrement avec eux, de telle sorte que nous pourrions saluer nos premiers parents à l'instar de l'archange Gabriel en leur déclarant « Le Seigneur est avec vous ». Mais voilà, que le serpent se faufile auprès d'Ève et se met à discuter avec elle. Parce que le pasteur connaît ses brebis, je vous entends déjà rétorquer, mais pourquoi donc leur envoie-t-il ce serpent? Ou pour les esprits plus terre à terre, pourquoi donc les murs d'enceinte du Créateur? n'ont-ils pas empêché l'entrée du serpent ? Cependant, ce ne sont pas de bonnes questions. Derrière elles, que ce soit au sujet des arbres figurant la loi ou au sujet de la présence du serpent figurant le diable, nous cherchons à nous disculper du péché et à mettre cette responsabilité sur le compte de Dieu. En cela, nous nous cachons avec Adam et Ève dans ce buisson et ne faisons pas plus face à notre péché qu'à la présence de Dieu. Si Dieu permet au diable d'approcher Ève, c'est parce qu'il sait qu'elle est capable de ne pas se laisser tromper et séduire. Il sait, comme en témoigne l'apôtre Pierre dans son épître, que cette épreuve vérifiera la qualité de sa foi. Elle en sortira grandie. D'ailleurs, ceux qui sont parents parmi vous savent bien que l'on élève les enfants en leur apprenant à éviter le danger, certes, mais tout autant en leur apprenant à l'affronter. En cela, comme Dieu, vous interdisez, vous préconisez la prudence, mais plus fondamentalement, vous connaissez vos enfants, leurs qualités comme leurs défauts. Dieu, dont nous sommes les enfants, s'il connaît nos péchés, connaît également notre résistance au mal, de telle sorte qu'il ne permettrait pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Nous l'aurions vérifié avec Ève, mais sans grande résistance. Elle se laisse aller au péché. Le serpent siffle à ses oreilles un discours qui se joue de la vérité pour mieux y enrober son mensonge. Il engage la conversation sur un constat approximatif. Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? Mais Ève, qui connaît la loi, corrige aussitôt. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ève a mordu à l'hameçon. Elle entre en discussion avec le démon. Celui-ci lui rétorque, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le démon est malin, c'est son surnom. Il se joue de trois vérités pour parvenir à ses fins, entraîner par Adam et Ève les hommes dans sa chute. Pour l'heure, c'est-à-dire dans l'état d'innocence dans lequel nous avons été créés, Adam et Ève ne sont pas mortels. C'est donc le premier tour de force opéré par le démon que de faire craindre à Ève une mort qui ne sera que la conséquence de sa désobéissance. Deuxième tour de force, le démon fait avaler à Ève qu'en mangeant ce fruit, ils seront alors comme des dieux. Mais Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est donc déjà le cas. Alors, son étau se resserre. Troisième tour de force, vous connaîtrez le bien. Mais dans l'état d'innocence, Adam et Ève ne connaissent et ne pratiquent que le bien. Alors, le venin de l'argumentaire parvient enfin à sa cible. Le démon lui vante les saveurs d'une nouvelle connaissance, le mal. Voilà comment celui que le Seigneur nomme dans l'Évangile le père du mensonge se joue de la vérité. Ève ne voit plus alors en cet arbre le symbole de la loi divine. Ses yeux s'ouvrent et le découvrent sous l'angle de la tentation, alors que son cœur se ferme à la seigneurie de ce Dieu qu'elle connaît bien davantage que ce serpent venimeux à la langue si habile. En désobéissant, elle devient pour Adam ce serpent qui lui donne à goûter ce fruit défendu. Ainsi, le péché et le mal entrent dans le monde et se transmettent-ils de génération en génération. En bon pédagogue, Dieu va alors punir Adam et Ève et les chasser du paradis. Mais en punissant le serpent, Dieu déclare « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Mais cette malédiction n'est pas définitive. « Celle-ci te meurtrira la tête, » annonce-t-il. Cette promesse de la victoire du bien sur le mal, de Dieu sur le démon, est ce que l'Église appelle le proto-évangile. Celle qui est bénie entre toutes les femmes pour mettre à mal le mal n'est autre que la Sainte Vierge. Si le fruit de ses entrailles est béni, c'est parce qu'elle met au monde le Sauveur. À la désobéissance d'Ève et à son fruit défendu correspond l'obéissance parfaite de la nouvelle Ève et à son fruit qui nous est rendu. Ce fruit sera suspendu à l'arbre de la croix pour nous sauver du péché et nous délivrer du mal. Combien avons-nous raison de bénir entre toutes les femmes et la mère et le fruit de ses entrailles à la suite de Sainte Élisabeth et sous la conduite du Saint-Esprit. Invoquons du haut du ciel cette mère incomparable qui nous a valu un tel rédempteur. Notre-Dame de la Visitation, ô Marie conçue sans péché, Sainte Élisabeth, Amen.